tierce.
Uatso se débat dans les peines d'amour, puis arrive Guillaume avec le texte de Venantius, qui continue de rester indéchiffrable, même après avoir été déchiffré. En vérité, passé ma rencontre coupable avec la jeune fille, les autres terribles événements m'avaient presque fait oublier cette aventure, et par ailleurs, sitôt après m'être confessé à frère Guillaume, mon âme s'était soulagée du remords ressenti à mon réveil, qui suivit ce fautif fléchissement, tant et si bien qu'il m'avait semblé remettre au frère, en parole, le fardeau même que les mots signifiaient. À quoi sert en effet la bienfaisante purification de la confession, sinon à décharger le poids du péché et du remords qu'il comporte dans le sein même de notre Seigneur, en obtenant, avec le pardon, une nouvelle aérienne légèreté de l'âme à en oublier le corps supplicié par l'infamie. Mais je ne m'étais pas libéré de tout. Maintenant que je déambulais au pâle et froid soleil de cette matinée hivernale, entouré de la ferveur des hommes et des animaux, je commençais à me souvenir des événements passés de façon différente. Comme si de tout ce qui était arrivé ne restait plus le repentir et les paroles consolatrices de la purification pénitentielle, mais seules des images de corps et de membres humains. Surgissait devant mon esprit surexcité le fantôme de Béranger, gonflé d'eau, et je frissonnais d'horreur et de pitié. Puis, comme pour mettre en fuite ce lémur, mon esprit s'adressait à d'autres images, dont la mémoire fut le frais réceptacle, et je ne pouvais éviter de voir, évidente à mes yeux, aux yeux de l'âme, mais comme si elle apparaissait presque aux yeux de la chair, l'image de la jeune fille, resplendissante et redoutable, comme des bataillons prêts à l'assaut. Je me suis promis, vieux copiste d'un texte jamais écrit jusqu'alors, mais qui pendant de longues décennies a parlé dans mon esprit, d'être chroniqueur fidèle, et non pas seulement par amour de la vérité, ni pour le désir, d'ailleurs fort digne, d'instruire mes lecteurs futurs. Mais en outre, pour libérer ma mémoire flétrie et lasse de visions qui, durant toute une vie, l'ont tourmentée. Et donc, je dois dire tout, avec décence mais sans honte. Et je dois dire à présent, et en toutes lettres, ce qu'autrefois je pensais et tentais presque de me cacher à moi-même, en me promenant à travers le plateau, en me mettant parfois à courir, afin de pouvoir attribuer au mouvement du corps les palpitations soudaines de mon cœur, en m'arrêtant un instant pour admirer l'ouvrage des vilains, et en imaginant me distraire à les contempler, en inspirant l'air froid à plein poumon, comme qui boit du vin pour oublier peur et douleur. En vain. Je pensais à la jeune fille. Ma chair avait oublié le plaisir intense, coupable et passager, vile chose, que m'avait donné mon union avec elle. Mais mon âme n'avait pas oublié son visage et n'arrivait pas à sentir comme pervers ce souvenir. Elle en frémissait plutôt, comme si en ce visage resplendissaient toutes les douceurs de la création. Je percevais de manière confuse et presque en me refusant à moi-même la vérité de ce que je sentais, que cette pauvre créature souillée, éhontée, qui se vendait, savoir avec quelle insolente constance, à d'autres pécheurs, cette fille d'Ève qui, fragile comme toutes ses sœurs, avait si souvent fait commerce de sa propre chair, était toutefois quelque chose de splendide et de prodigieux. Mon intellect la savait source de péché, mon appétit sensitif l'apercevait comme le réceptacle de toute grâce. Il est difficile de dire ce que j'éprouvais. Je pourrais tenter d'écrire que, encore pris dans les raies du péché, je désirais coupablement la voir apparaître à chaque instant et que j'allais presque jusqu'à épier le travail des ouvriers pour scruter si, du coin d'une cabane, de l'obscurité d'une étable, apparaissait la silhouette qui m'avait séduit. Mais je n'écrirais pas le vrai ou bien je tenterais de placer un voile devant la vérité pour en atténuer la force et l'évidence, car la vérité est que je voyais la jeune fille. Je la voyais dans les ramures de l'arbre nu qui palpitait, légère, quand un passereau transi volait y chercher refuge. Je la voyais dans les yeux des génisses qui sortaient de l'étable et je l'entendais dans le bêlement des agneaux qui croisaient mon errance. C'était comme si toute la création me parlait d'elle et je désirais, oui, la revoir. Mais j'étais aussi prêt à accepter l'idée de ne la revoir plus jamais et de ne plus jamais m'unir à elle, pourvu que je puisse jouir du bonheur qui m'envahissait ce matin-là, et à jamais l'avoir près de moi, eût-elle été, et pour l'éternité, loin de moi. C'était, je m'évertue à comprendre à présent, comme si l'univers entier, qui visiblement est presque un livre écrit par le doigt de Dieu, où chaque chose nous parle de l'immense bonté de son Créateur, où chaque créature est presque écriture et miroir de la vie et de la mort, où la plus humble rose se fait glose de notre cheminement terrestre, comme si tout, en somme, ne me parlait de rien d'autre que du visage que j'avais malaisément entrevu dans les ombres odorantes des cuisines. Je m'abandonnais à ces imaginations car je me disais, ou mieux, je ne me disais pas, parce qu'à ce moment-là, je ne formulais point de pensée traduisible en mots, que si le monde entier est destiné à me parler de la puissance, bonté et sagesse du Créateur, et si ce matin-là, le monde entier me parlait de la jeune fille qui, pour pécheresse qu'elle fût, était bel et bien un chapitre du grand livre de la création, un verset du grand psaume chanté par le cosmos, je me disais à présent, je dis, que si cela se produisait, ce ne pouvait pas ne pas faire partie du grand dessein qui régit l'univers, disposé en forme de lyre, miracle de correspondance et d'harmonie. Quasi grisé, je jouissais alors de sa présence à elle dans les choses que je voyais, et en elle la désirant aller voir, je m'assouvissais. Et pourtant, je sentais comme une douleur, car en même temps, je souffrais d'une absence, tout en étant heureux de tous ces fantômes d'une présence. J'ai de la peine à expliquer ce mystère de contradiction, signe que l'esprit humain est très fragile et ne va jamais directement le long des sentiers de la raison divine, qui a construit le monde comme un parfait syllogisme, mais de ce syllogisme ne saisit que des propositions isolées et souvent disjointes, d'où notre facilité à tomber victime des illusions du malin. Était-ce une illusion du malin, celle qui ce matin-là me donnait une telle émotion? Je pense que oui aujourd'hui, car j'étais novice, mais je pense que l'humain sentiment qui m'agitait n'était pas mauvais en soi, mais seulement en regard de mon état. Parce qu'au fond, c'était le sentiment qui pousse l'homme vers la femme afin que l'un s'unisse à l'autre, comme veut l'apôtre des gentils, et que tous deux soient chairs d'une seule chair et qu'ensemble ils procréent de nouveaux êtres humains et s'assistent mutuellement de la jeunesse à la vieillesse. Sauf que l'apôtre parla ainsi pour ceux qui cherchent remède à la concupiscence et pour qui ne veut brûler, en rappelant toutefois que l'état de chasteté est de loin préférable auquel, en tant que moine, je m'étais consacré. Et j'endurais donc ce matin-là ce qui était mal pour moi, mais pour les autres bien peut-être, et fort suave bien, et par là je comprends que mon trouble n'était pas dû à la perversité de mes pensées, en soi dignes et douces, mais à la perversité du rapport entre mes pensées et les vœux que j'avais prononcés. Par conséquent, je faisais mal de jouir d'une chose bonne pour une certaine raison, mauvaise pour une autre, et mon défaut se trouvait dans la tentative de concilier l'appétit naturel avec les lois édictées par l'âme rationnelle. À présent, je sais que je souffrais du contraste entre l'appétit intellectif, où aurait dû se manifester l'empire de la volonté, et l'appétit sensitif, sujet des humaines passions. En effet, actus appetitus sensitivi in quantum habent transmutationem corporalem annexam, passiones dicuntur non autem actus voluntatis. Et mon acte appétitif était précisément accompagné d'un tremblement de tout mon corps, d'une impulsion physique à crier et à m'agiter. Le docteur Angélique dit que les passions en soi ne sont pas mauvaises, sauf qu'on doit les modérer par la volonté guidée par l'âme rationnelle. Mais mon âme rationnelle était ce matin-là assoupie de fatigue, et cette lassitude bridait l'appétit irascible qui se tourne vers le bien et vers le mal en tant que terme de conquête, mais pas l'appétit concupiscible qui se tourne vers le bien et vers le mal en tant qu'ils sont connus. Pour justifier mon irresponsable légèreté d'alors, je dirais aujourd'hui, et avec les mots du docteur Angélique, que j'étais indubitablement pris d'amour, qui est passion et loi cosmique, car même la gravité des corps est amour naturel. Et par cette passion, j'étais naturellement séduit, car en cette passion, appetitus tendit in appetibile realiter, consequendum ut sit ibi finis motus. Partant, naturellement, amor facit, quod ipsa eres quae amantur, amanti aliquo modo uniantur et amor, est magis cognitivus quam cognitio. De fait, Je voyais maintenant la jeune fille mieux que je ne l'avais vue la veille au soir, et je la comprenais « intus et incute », parce qu'en elle, je me comprenais moi et en moi elle-même. Je me demande à présent si ce que j'éprouvais était l'amour d'amitié, ou le semblable aime le semblable et ne veut que le bien d'autrui, ou amour de concupiscence, où l'on veut son propre bien et l'incomplet ne veut que ce qui le complète. Et je crois qu'amour de concupiscence avait été celui de la nuit, où je voulais de la jeune fille quelque chose que je n'avais jamais eu, tandis que ce matin-là, je ne voulais rien de la jeune fille, et je ne voulais que son bien, et je désirais qu'elle fût soustraite à la cruelle nécessité de se soumettre pour un peu de nourriture, et fût heureuse, et je ne voulais plus rien lui demander, mais uniquement continuer à penser à elle et à la voir dans les brebis, dans les bœufs, dans les arbres, dans la lumière sereine qui saignait de bonne heure l'enceinte de l'abbaye. À présent, je sais que la cause de l'amour est le bien, et ce qui est bien se définit par connaissance, et qu'on ne peut aimer que ce qu'on a appris comme bien, tandis que la jeune fille, je l'avais apprise, oui, comme bien de l'appétit irascible, mais comme mal de la volonté. Mais alors j'étais la proie d'une grande discordance dans les mille mouvements de mon âme, car ce que j'éprouvais était semblable à l'amour le plus saint, précisément comme le décrivent les docteurs. Il me procurait l'extase, où amant et aimé veulent la même chose, et par une mystérieuse illumination, je savais qu'en cet instant, et où qu'elle fût, la jeune fille voulait cela même que moi je voulais. Et pour elle, j'éprouvais de la jalousie, mais pas la mauvaise, condamnée par Paul dans la première aux Corinthiens, qui est « Qui est principium contentionis, et n'admet pas consortium in amato », mais celle dont parle Denis dans les Nomi Divini, raison pourquoi Dieu aussi est dit jaloux, propter multum amorem quem habet ad existentia. Et moi, j'aimais la jeune fille justement parce qu'elle existait, et j'étais heureux, pas envieux, qu'elle existât. J'étais jaloux de la façon dont, pour le docteur Angélique, la jalousie est motus in amatum, jalousie d'amitié qui pousse à s'opposer à tout ce qui nuit à l'aimer. Et moi, je ne rêvais en cet instant-là à rien d'autre qu'à délivrer la jeune fille du pouvoir de ceux qui en achetaient la chair en la souillant de leur passion néfaste. À présent, je sais, comme dit le docteur, que l'amour peut porter atteinte à l'aimer s'il est excessif, et le mien était excessif. J'ai tenté d'expliquer ce que j'éprouvais alors, je ne tente en rien de le justifier. Je parle de ce que furent mes coupables ardeurs de jeunesse, elles étaient mauvaises, mais la vérité m'impose de dire que je les ai ressenties alors comme extrêmement bonnes, et que cela enseigne ceux qui, comme moi, trébucheront dans les raies de la tentation. Aujourd'hui, vieillard, je saurais mille façons d'échapper à de telles séductions, et je me demande à quel point je dois en être fier, puisque me voilà libéré, oui, des tentations du démon méridien, mais pas libéré de toutes, à telle enseigne que je me demande si ce que je suis en train de faire n'est pas coupable allégeance à la passion terrestre de la remémoration, sotte tentative d'échapper au flux du temps et à la mort. Jadis, je me sauvais presque par instinct miraculeux. La jeune fille m'apparaissait dans la nature et dans les œuvres humaines qui m'entouraient. Je cherchais donc, par une heureuse intuition de l'âme, à me plonger dans la contemplation détaillée de ces œuvres. J'observais le travail des vachers qui menaient les bœufs hors de l'étable, des porchers qui remplissaient la bauge des cochons, des bergers qui excitaient les chiens à réunir les brebis, des paysans qui apportaient épeautre et mil au moulin et en sortaient avec des sacs de bonne farine. Je m'absorbais dans la contemplation de la nature, en cherchant à oublier mes pensées et à ne regarder que les êtres tels qu'ils nous apparaissent et à m'abîmer dans leur vision joyeusement. Qu'il était beau le spectacle de la nature, non encore touché par la science, souvent perverse, de l'homme. Je vis l'agneau, à qui on a donné ce nom comme en reconnaissance de sa pureté et bonté. En effet, le nom Agnus dérive du fait que cet animal, agnoskite, reconnaît sa propre mère, et en reconnaît la voix au milieu du troupeau, tandis que la mère, parmi tant d'agneaux de forme identique et d'identique bêlement, reconnaît toujours et uniquement son fils et le nourrit. Je vis le mouton, appelé Ovis, qu'on dit ab oblatione, parce qu'il servait depuis les premiers temps au rite sacrificiel. Le mouton qui, à son habitude, au seuil de l'hiver, cherche l'herbe avec avidité et se remplit de fourrage avant que les packages ne soient brûlés par le gel. Et les troupeaux étaient surveillés par les chiens, dont le nom vient de canor, à cause de leur aboiement. Animal parfait au milieu des autres, avec des dons d'acuité supérieurs, le chien reconnaît son propre maître et il est dressé à la chasse aux bêtes féroces dans les bois, à la garde des troupeaux contre les loups. Il protège la maison et les petits de son maître et parfois, dans son rôle de défenseur, il trouve la mort. Le roi Garamante, qui avait été conduit en prison par ses ennemis, était retourné dans sa patrie grâce à une meute de 200 chiens qui se frayèrent un chemin au milieu des bataillons antagonistes. Le chien de Jason Lycien, après la mort de son maître, refusa de se nourrir jusqu'à mourir d'inanition. Celui du roi Lysimaque se jeta sur le bûcher de son maître pour mourir avec lui. Le chien a le pouvoir de cicatriser les blessures en les léchant, et la langue de ses chiots peut guérir les lésions intestinales. De par sa nature, il a coutume d'utiliser deux fois la même nourriture après l'avoir vomi. Sobriété, qui est symbole de perfection d'esprit, ainsi que le pouvoir de thaumaturge de sa langue, est symbole de la purification des péchés, obtenue à travers la confession et la pénitence. Mais que le chien revienne à ce qu'il a vomi est aussi le signe que, après la confession, on revient au même péché qu'avant, et cette moralité me fut fort utile ce matin-là pour avertir mon cœur alors que j'admirais les merveilles de la nature. Cependant, mes pas me portaient à l'étable des bœufs qui étaient en train de sortir en grand nombre, guidés par leur bouvier. Ils me semblèrent aussitôt, tels qu'ils étaient et sont, des symboles d'amitié et de bonté, car chaque bœuf sur son travail se tourne pour chercher son compagnon de charrue, si par hasard celui-là est pour l'heure absent, et il s'adresse à lui avec d'affectueux beuglements. Les bœufs, obéissant, apprennent à regagner tout seuls l'étable quand il vient à pleuvoir, et quand ils s'abritent à leur râtelier, ils allongent continuellement la tête pour regarder dehors si le mauvais temps a cessé, car ils aspirent à retourner au travail. Et avec les bœufs sortaient aussi des étables les jeunes veaux, qui, femelles et mâles, tirent leur nom du mot « wiridas » ou même de « wirgo », car à cet âge, ils sont encore frais, jeunes et chastes. Et j'avais fait et faisais mal, me dis-je, de voir dans leurs ondoiements gracieux une image de la jeune fille sans chasteté. Voilà à quoi je songeais, réconcilié avec le monde et avec moi-même, observant le gai travail de l'heure matutinale. Et je ne pensais plus à la jeune fille, autrement dit, je m'efforçais de transformer l'ardeur qui me portait vers elle en un sentiment de gaieté intérieure et de paix dévote. Je me dis que le monde était bon et admirable, que la bonté de Dieu est manifeste, fût-ce chez les bêtes les plus horribles, comme explique Honorius d'Autun. C'est vrai, il y a des serpents si grands qu'ils dévorent les cerfs et parcourent les océans. Il y a la bête cénocroque au corps d'âne, corne de bouquetin, poitrine et gueule de lion, pied de cheval à deux onglons comme celui du bœuf, babine taillée jusqu'aux oreilles, voix presque humaine et à la place des dents, un seul os solidement planté. Et il y a la bête manticore, avec un visage d'homme, un triple ordre de dents, le corps de lion, la queue de scorpion, les yeux glauques, une couleur de sang et la voix pareille au sifflement des serpents, friande de chair humaine. Il y a des monstres, avec 8 doigts à chaque pied, et des museaux de loup, des ongles crochus, une peau de mouton et des abois de chien, qui deviennent noirs au lieu de blancs avec la vieillesse, et dépassent de beaucoup notre âge. Et il y a des créatures avec des yeux sur les humérus, et 2 trous sur la poitrine au lieu de narines, parce qu'ils n'ont point de tête, et d'autres encore qui gîtent le long du fleuve Gange, et ne vivent que de l'odeur d'une certaine pomme, et quand ils s'en éloignent, ils meurent. Cependant, même toutes ces bêtes immondes chantent dans leur variété les louanges du Créateur et sa sagesse, comme le chien, le bœuf, le mouton, l'agneau et le lynx. « Comme elle est grande, me dis-je alors, en répétant les paroles de Vincent de Beauvais, la plus humble beauté de ce monde, et comme il est agréable à l'œil de la raison de considérer attentivement les façons et les nombres et les ordres des choses, si dignement établis dans tout l'univers, mais aussi le déroulement des temps qui incessamment se déploie à travers successions et chutes marquées par la mort de ce qui est né. J'avoue, en pécheur que je suis, à l'âme insignifiante encore prisonnière de la chair, que je fus porté alors par une douceur toute spirituelle vers le Créateur et la règle de ce monde, et j'admirai avec joyeuse vénération la grandeur et la stabilité de la création. »